Éric Bataillon.
Bonjour, c'est la ville aux 106 mosquées, une cité trimillénaire qui a été éthiopienne et plusieurs fois ottomane. Sanaa est la plus grande ville et la capitale du Yémen. Située sur un haut plateau à 2200 mètres d'altitude, son cœur ancien est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Nous la découvrirons avec le chercheur Franck Mermier. C'est le premier film de fiction entièrement tourné au Yémen. Moi, Nojoum, 10 ans divorcé, parle de ce fléau qui touche les très jeunes filles dans de nombreux pays arabes, le mariage forcé. Un film qui a malgré tout été primé dans un autre pays arabe, Dubaï.
Orient Hebdo sur RFI.
هيفاك الهلال حسنها شل روحي وعقلي.
Édifiée dans une vallée de montagne à 2200 mètres d'altitude, la ville de Sanaa est habitée depuis plus de 2500 ans. Au 7e et 8e siècle, la plus grande ville et capitale du Yémen est devenue un important centre de propagation de l'islam naissant. On retrouve ce patrimoine religieux et politique dans ses 106 mosquées, ses 12 hammams et ses 6500 maisons qui datent toutes d'avant le 11e siècle. Bonjour Franck Mermier.
Bonjour.
Vous avez consacré un livre à cette cité où vous avez vécu. Le livre s'appelle Le Cheikh de la Nuit, Sanaa, organisation des souks et société citadine. C'est chez Actes Sud. Qu'est-ce que cette ville a de remarquable au point d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Alors je dirais tout d'abord évidemment une architecture extraordinaire. Ces maisons-tours de plusieurs étages qui sont en plus construites avec des matériaux traditionnels, souvent avec de la terre, une base en pierre et souvent de la terre. Et puis aussi des décorations en albâtre ou en stuc très très belles qui font de Sanaa une ville tout à fait remarquable, une ville en fait, une cité-tour. Et autrefois, mais il en reste encore beaucoup dans cette vieille ville de Sanaa, aussi des jardins potagers en fait qui entouraient ces grandes maisons tours de Sanaa, avec une ville qui était enserrée d'une muraille et avec la porte qui existe toujours, la Bab el Yémen, la porte du Yémen dans la direction du sud de la ville, et qui est une entrée de la ville, parce que à l'époque des imams qui ont régné de 898 jusqu'en 1962, la ville était fermée la nuit pour les voyageurs étrangers, et donc ceux qui étaient étrangers à la ville et qui étaient à l'intérieur de la cité devaient dormir dans des caravansérails qui étaient, qu'on appelle Samsara au Yémen, à Sanaa, et qui étaient dans les souks.
Quand on voit des photos de Sanaa de l'extérieur, on a l'impression que c'est une ville qui est fabriquée, qui n'est pas réelle. C'est la réalité.
En fait, il y a, c'est vrai, une dimension esthétique extrêmement forte. Alors tout le monde connaît cet usage, cette habitude des Yéménites de mâcher du khat. Le khat, c'est une plante euphorisante qu'ils mâchent souvent tous les après-midi, donc à partir de 2h, 3h de l'après-midi jusqu'à 6, 7, 8 heures. Et il faut que le fait de mâcher le khat, se déroule dans des lieux particulièrement magiques, beaux, ouverts sur des jardins. D'où, en fait, la situation en hauteur aussi, du fait que beaucoup de ces salons de khat sont situés soit en hauteur, soit en revanche, près du jardin, au rez-de-chaussée, dans un lieu particulier pour qu'on appelle le mafraj, pour mâcher le khat. Donc il y a, c'est vrai, cette question du regard qui est très importante, esthétique, qui est liée aussi à ces pratiques sociales de sociabilité masculine, mais aussi féminine, puisque les femmes aussi se retrouvent pour mâcher le khat, et qui était aussi lié aussi à toute une culture citadine pour Sanaa, liée notamment à la musique et à la poésie qui était pratiquée durant ces séances de khat.
Alors Sanaa, on l'a dit, a accompagné le développement et la propagation de la religion musulmane. Est-ce que cela se retrouve dans l'architecture de la ville?
Alors vous avez cité le nombre de mosquées qui est très importante, mais Sanaa était une ville aussi qui était, disons, particulièrement caractérisée par la confession zaïdite, qui est une branche du chiisme, puisque Saba se situe sur les hauts plateaux, et que finalement les imams zaïdites avaient choisi à la fin Sanaa pour capitale. Hein. Mais dans le même temps, cette ville, elle a connu aussi de nombreuses transformations, et donc de nombreux sunnites sont venus habiter dans cette ville. Plutôt d'ailleurs à l'extérieur des remparts qu'à l'intérieur, et finalement il y a eu une espèce de mixité confessionnelle religieuse au niveau de l'islam dans cette ville, qui abritait aussi un quartier juif, le quartier Elgar, que l'on trouve donc à l'extérieur de la vieille ville, mais qui est aussi un quartier traditionnel, jusqu'au moment où en 48-49 les juifs sont partis du Yémen pour aller en Israël.
Est-ce que la vie s'organise autour du marché central ?
Alors le souk est très très important. Le souk contient à peu près une quarantaine de souks spécialisés, hein, depuis la fabrication des jambiyas, le poignard, jusqu'à la fabrication des narguilés qu'on appelle madar au Yémen. Donc il y a tout un ensemble, et puis les parfumeurs apothicaires, les céréales, le raisin sec très important, et aussi le café. On trouve une douane du café dans le souk de Sanaa, c'est-à-dire des produits traditionnels qui sont importants aussi pour les rituels sociaux. Donc le souk conserve cette centralité dans la ville, non seulement par cette situation, mais aussi parce qu'il produit, qu'il offre à la vente des produits très importants pour tous les rituels sociaux. Cela va de la circoncision au mariage jusqu'au décès, et donc c'est un conservatoire aussi de la société traditionnelle, ce souk, qui est toujours aussi actif, hein, bien que aujourd'hui évidemment beaucoup de marchés ont été créés à l'extérieur de la ville.
Vous avez dit tout à l'heure que cette ville a été fermée d'une certaine façon pendant de nombreuses années, presque plusieurs siècles. Est-ce qu'aujourd'hui, Sanaa est une ville ouverte ? Est-ce que c'est une ville cosmopolite ?
Alors, cosmopolitisme, ce serait un grand mot aujourd'hui, puisque effectivement, Sanaa compte près de 2 millions d'habitants, hein, environ. Donc, elle s'est extrêmement développée, hein, elle remplit presque son bassin qui est entouré de montagnes. Dans le même temps, il y avait des étrangers dans la ville, mais depuis les événements récents événements politiques au Yémen, notamment depuis la prise de Sanaa le 21 septembre 2014 par les houthistes, ce mouvement rebelle donc qui a provoqué un coup d'État, finalement de plus en plus d'étrangers ont quitté la ville, et aujourd'hui effectivement il reste presque plus d'étrangers dans la ville, du fait que évidemment la situation politique est extrêmement grave. Faut pas oublier que l'aéroport de Sanaa a été bombardé tout récemment par les forces de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite, et donc ça a jamais été vraiment une ville cosmopolite, au contraire, j'allais dire d'Aden au sud, qui du temps des Anglais se caractérisait justement par ce cosmopolitisme.
Est-ce qu'il y a un risque, vous évoquez la rébellion en cours, hein, des houthistes, est-ce qu'il y a un risque que la ville de Sanaa pâtisse de cette rébellion en étant partiellement ou totalement détruite ?
Alors, il est toujours à craindre évidemment que les bombardements intensifs qui sont menés par la coalition puissent finalement viser des sites qui sont disons très importants sur le plan du patrimoine, et notamment la vieille ville, hein, bien entendu. Et en plus, des erreurs sont toujours possibles. Juste pendant la guerre de 94, la vieille ville n'avait pas été touchée, donc on espère que ce sera aussi le cas, bien que toutes les victimes sont à déplorer, et pas seulement dans la vieille ville. Mais aujourd'hui, ce qui est très troublant, c'est la transformation de la vieille ville de Sanaa par le fait de cette présence houthiste qui se réclame du zaïdisme, c'est une branche du chiisme propre au Yémen, et on voit en fait la vieille ville de Sanaa se transformer finalement en un territoire politique qui est où sont placardées des affiches, des slogans politiques qui réfèrent justement à ce mouvement des houthistes, des Ansarella, des partisans de Dieu, ce qui a complètement transformé finalement, en tout cas sur le plan visuel, hein, iconographique, la vieille ville qui était jusqu'à présent justement baignée dans une certaine neutralité politique, puisqu'elle était aussi un conservatoire de la société citadine traditionnelle.
Franck Mermier, si vous aviez un endroit à conseiller à un voyageur de passage, de très court passage, quel serait-il ?
Alors, je lui conseillerais d'aller sur le haut d'un caravansérail au plein centre du souk, et donc de monter dans un caravansérail qui avait été pillé en 1948 lorsque les tribus étaient entrées dans la ville, encore une fois, et donc de regarder, effectivement, de contempler le paysage de Sanaa, de ses maisons-tours, avec en plus toutes ces montagnes qui l'entourent depuis ce caravansérail.
Merci Franck Mermier, spécialiste des Yémen. Je rappelle votre ouvrage publié chez Sinbad Actes Sud, Le Cher de la Nuit, Sanaa, Organisation des Souks et Société Citadine.
Merci.
pas facile de faire un film au Yémen et sans doute encore moins d'aborder une question comme l'inégalité entre les sexes dans un pays qui figure au dernier rang mondial sur cette question. C'est sans doute pourquoi moi, Norum, 10 ans, divorcé, premier film de fiction entièrement tourné au Yémen, est depuis sa sortie en 2014 projeté partout dans le monde. Il a été à Paris, à l'Institut du Monde Arabe, au début du mois de juin. À cette occasion, notre confrère du service culture, Sébastien Jeder, a rencontré la réalisatrice du film, Khadija Al-Salami.
Khadija Al-Salami, bonjour.
Bonjour.
70 000 femmes meurent chaque année dans le monde des suites d'un mariage précoce. En quoi l'histoire de Nojoum, qui veut dire comme les étoiles dans le ciel, en quoi cette histoire est-elle exemplaire?
Parce que la vraie Nojoum, parce que ce film est inspiré par une vraie histoire d'une jeune fille au Yémen qui s'est mariée à 10 ans. Et cette petite fille, quand elle a demandé le soutien de ses parents, et quand elle a découvert qu'est-ce que ça veut dire le mariage, elle a été terrorisée. Donc, elle devait trouver une solution. Et cette fille était très courageuse pour aller jusqu'au tribunal. On ne savait pas qu'est-ce que c'est le tribunal, mais elle a entendu que peut-être au tribunal, on peut l'aider. Donc, elle a cherché cette aide et est allée toute seule demander le divorce auprès d'un juge. Et heureusement, elle a trouvé un juge, malgré qu'il n'y a pas une loi qui interdit le mariage précoce au Yémen, le mariage des enfants, qui l'a soutenu et un avocat qui l'a défendu.
Effectivement, au début du film, on voit cette petite fille qui est jouée par Réham Mohamed. Elle court voir un juge, elle lui dit « je veux divorcer ». Et lui, vraiment, il a du mal à comprendre parce que cette petite fille, elle n'a que 10 ans. Et de fait, aucune fille aussi jeune n'avait jamais demandé le divorce au Yémen.
Exact, parce qu'il n'y a pas déjà une loi et les filles n'osent pas. Elles sont des petites filles qu'on ne savait pas ce qui se passe avec nous. Moi, j'étais aussi une victime de cette histoire. J'étais mariée à 11 ans, je ne savais pas quoi faire. La seule chose que je dis, je ne voulais pas ce mariage, je ne voulais pas. Mais il n'y a aucun moyen pour aller chercher des aides. À mon époque, c'était encore pire. J'étais là-bas toute seule pour combattre ma famille et la société entière. Et la seule chose que j'avais devant moi, parce que je ne voulais pas vivre cette vie douloureuse, que de suicider. Et là, finalement, ma mère s'est réveillée et elle m'a soutenue.
Alors, vous l'avez dit, ce combat, c'est aussi le vôtre. Hein. Vous avez été mariée à 11 ans, vous nous l'avez dit. Comment vous avez vécu ce tournage? Est-ce que c'était douloureux de revivre à travers ce personnage votre histoire? Ou au contraire, est-ce que vous l'avez vu comme une manière d'exorciser ce qui vous est arrivé, de tirer un trait dessus, de vous en débarrasser d'une certaine manière de cette histoire?
C'était douloureux dans tous les sens. D'abord, là, quand je me suis mariée, je ne voulais plus attendre. J'ai même nié que j'étais passée par cela. Je voulais complètement oublier parce que je vois seulement ma future et je ne voulais pas que je sois une victime. Je voulais dépasser tout ça. Mais c'est dur parce qu'elle est toujours là. Quand on vit une expérience très douloureuse, ça nous marque toute la vie. Et je remarquais ça en faisant le film. Et donc, c'était vraiment un exercice de sortir de cet état-là. Mais en même temps, c'était dur de le faire au Yémen. Parce que d'abord, il n'y a pas la culture du cinéma au Yémen. Déjà, le sujet était très sensible. La sécurité, c'est encore très difficile. Donc, pour faire ce film au Yémen, c'était un vrai, vrai cauchemar.
C'est le premier long métrage de fiction entièrement tourné au Yémen. Moi, Nojoum, 10 ans divorcé.
Exact, avec des comédiens yéménites. Et il n'y a pas vraiment de comédiens yéménites. Il fallait le former. Et en plus, je ne pouvais pas dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas pris l'autorisation de l'État. Et
vous avez tourné clandestinement d'une certaine manière.
Oui, je l'ai filmé clandestinement. Même mes comédiens et comédiennes ne savaient pas de quel s'agit l'histoire. Je donnais seulement...
Vous ne connaissez pas forcément le sujet de l'histoire.
Oui, et je le donnais seulement peu à peu au long du tournage, leur texte ou leur dialogue. Et à la fin, ils ont découvert. Mais au début, je ne voulais pas parce que... À cause de la sécurité, on a peur de ces intégristes qui sont pour le mariage des enfants. Donc, tous les jours était un problème.
Ce film, il est construit en flashback et ça permet de comprendre l'engrenage hein, dans lequel est pris Nojoum, qui est donc marié et à 10 ans et qui va essayer de divorcer. Il y a eu le viol de sa sœur, le déshonneur de la famille, ils ont été obligés de fuir leur village, s'installer à Sanaa. Et on comprend que le père, il a finalement vendu sa fille, il l'a mariée pour payer le loyer. Qu'est-ce que vous diriez qui est le plus important pour expliquer cette descente aux enfers de Nojoum, ce personnage, cette histoire vraie? C'est la pauvreté, c'est l'illettrisme, le poids des traditions?
C'est tout l'ensemble, le poids des tradition, la mal compréhension de la religion, la pauvreté, le manque aussi de lois, tout ça se sont liés. Même ma mère, elle était mariée à 8 ans. Jusqu'à aujourd'hui, elle est encore terrorisée par cette expérience. Et j'ai dit, maman, pourquoi tu m'as poussée de se marier? Et elle m'a dit, ma fille, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y a d'autres choses. On croyait que c'est notre destin. Mais maintenant, vous nous avez montré d'autres choses. Donc, grâce à ma rébellion moi-même, maintenant, les filles dans ma famille, il n'y a aucune fille qui s'est mariée très jeune après ce que je fais. D'abord, j'étais le mauvais exemple. Et après, elle disait, lorsque je suis venue terminer mes études, etc., et il voit que je soutiens ma famille et j'ai une place dans la société. Et là, je devenais la bonne exemple pour cette famille et d'autres familles.
Depuis 2 mois et demi, Khadija Al-Salami, le Yémen est pilonné tous les jours par une coalition menée par l'Arabie Saoudite qui cherche à anéantir les rebelles chiites houthis qui ont chassé du pouvoir le président Hadi. Est-ce que c'est un nouvel avatar de ces luttes de clans, de ces luttes de tribus qu'on perçoit aussi dans votre film, Nojoun 10 ans divorcé, des luttes de clans où les civils sont finalement les premières victimes et les femmes en première ligne?
La guerre n'amène que destruction. Malheureusement, cette guerre, moi je trouve que c'est une guerre injuste. Le pays est détruit tous les jours. Maintenant, la priorité, c'est de survivre. Et cette guerre, il faut l'arrêter. Personnellement, moi je suis triste qu'il se passe au Yémen, parce que c'est injuste. Il y a une guerre, c'est que pour le soif de pouvoir et l'intérêt régional et financier.
À la fin de votre film, Moi, Nojoum, 10 ans divorcé, il y a une chanson pop, une chanson qui donne de l'espoir. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson?
Ouais, c'était vraiment difficile d'avoir cette chanson parce que depuis des mois et des mois, j'ai demandé des musiciens yéménites qu'ils me fassent une chanson qui est un peu moderne, qui les petites filles disent non au mariage des enfants. Et finalement, juste après le tournage, j'ai trouvé des jeunes de 15 ans, de 16 ans. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'écrire une chanson? Et c'est pour réclamer la liberté, l'éducation, le droit d'avoir une vie libre et normale de petite fille.
Khadija Al-Salami, merci.
Merci à vous.
François Porcheron a réalisé cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Samedi prochain, nous ferons un tour à Istanbul, la perle du Bosphore, et nous écouterons l'historien Michel Marian qui sort un ouvrage à l'occasion du centenaire du génocide arménien. Bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal d'information sur RFI.